Bonjour et bienvenue dans Les Clés de l'agroécologie, le podcast de l'association Ferme d'Avenir qui aide à faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. Dans ce podcast, nous vous proposons les portraits de fermes aux modèles agroécologiques innovants et nous invitons ces paysans d'avenir à partager leurs clés de réussite et leurs conseils. Cet épisode est issu d'un partenariat avec la région Île-de-France. Bonne écoute! Dans ce 13e épisode des Clés de l'agroécologie, on fait la connaissance d'Abdennour Ahmad, paysan chevrier et fromager sur la ferme de Toussac en Seine-et-Marne. Comment trouver suffisamment d'investissement pour s'installer en élevage? Voilà la question à laquelle on va tenter de répondre avec lui, juste après avoir fait plus ample connaissance.
Je suis Abdennour, je suis éleveur de chèvres et fromager en Île-de-France. J'ai fait ça après une reconversion professionnelle. Donc jusqu'à 2018, j'étais dans le métier de la finance et de la comptabilité. Et en décidant de me reconvertir, donc je me suis tout de suite penché vers le réseau Abiosol qui existe en Île-de-France et qui accompagne les porteurs de projets dans leur installation. Dans l'accompagnement, il y a bien sûr trouver la formation ou trouver le projet sur lequel on veut se pencher. Trouver la formation qui est adaptée. Et donc, je me suis tout de suite dirigé vers une formation qui était un brevet professionnel pour exploitant agricole, un BPREA, qui est spécialisé vraiment en élevage de chèvres et fromagerie, donc que j'ai fait en Ardèche par correspondance. Entre-temps, je travaillais encore à ce moment-là. Donc, j'avais fini ma formation en 2018. Et puis, juste après, j'ai enchaîné par une recherche de foncier pour essayer de m'installer avec ma compagne. Et puis, donc, j'ai pu faire quelques boulots par-ci par-là dans des fermes différentes, justement, pour avoir un peu plus d'expérience. Ça tombait bien parce que la recherche de foncier prend pas mal de temps. Donc, le temps de s'installer vraiment, ça m'a permis de me former, justement, au métier, se tester physiquement, mentalement, dans différentes fermes que j'ai connues en Île-de-France. Et puis donc depuis 2021, je me suis installé avec ma compagne donc dans cette ferme qui est la ferme de Toussac qui fait partie de la coopérative Les Champs des Possibles, qui est une coopérative d'activité et d'entrepreneuriat qui accueille donc des paysans pour se tester en théorie au métier d'agriculteur, que ce soit du maraîchage, de l'élevage, de la transformation, et puis de décider de s'installer ou pas après cette période de test. Donc Isabelle et moi, qui m'accompagnent, on est arrivés à cette ferme des Champs des Possibles pour nous installer à très long terme et devenir des tuteurs dans l'avenir pour accueillir justement des porteurs de projets qui veulent uniquement se tester. Donc actuellement, on a une trentaine de chèvres laitières adultes qui ont fait toutes leurs petits chevreaux et chevrettes en début d'année 2022. Et donc depuis, on est en production laitière. Nos chèvres, on les traite tous les jours et on transforme le lait tous les jours en fromage lactique principalement, un peu de thon en été. Et nous vendons toute notre production, principalement en vente directe. Une grosse partie de 50%, je dirais, on la vend en AMAP. Et on a une boutique à la ferme qui est partagée avec nos collègues. Et puis, quelques commerces avec qui nous avons lié des partenariats comme une biocoop à Provins, pas loin de la ferme, et d'autres petits commerces dans le coin. Et puis donc dans la ferme, on est un collectif, on est plusieurs paysans, transformateurs, aussi entrepreneurs du pôle tertiaire. Donc c'est une ferme de 75 hectares où il y a à peu près 5 hectares pour du maraîchage, il y a 3 maraîchers à la ferme, plus 2 salariés qu'ils ont avec eux, une douzaine d'hectares de prairies uniquement pour les chèvres sur lesquelles nous faisons des rotations. Il y a aussi une collecte bergère, un labo de transformation de légumes qui sert justement à des entrepreneurs de venir faire leur production à la journée, donc de bocaux de légumes principalement, de bocaux stérilisés ou non, comme de la lactofermentation. Et puis on a une collègue aussi qui est boulangère et qui utilise uniquement les farines de la ferme pour faire du pain au levain. Bien sûr, c'est une ferme en agriculture biologique. Donc sur les 75 hectares, donc tout le reste des terres, qui ne sont pas des prairies ni pour du maraîchage, servent pour des céréales en boulangerie, mais aussi pour nourrir les animaux.
Conseil numéro 1 pour trouver suffisamment d'investissement pour s'installer en élevage, budgétiser son installation.
Alors à travers mon expérience d'installation en élevage laitier et fromager, on s'est rendu compte qu'il était très très important de budgétiser correctement et le plus juste possible son installation. pour être sûr d'avoir pris en compte l'essentiel des investissements et de ne rien oublier, de prévoir les financements qui vont avec. Et donc, lorsqu'on s'installe en élevage de chèvres, voire en élevage laitier en général, on peut généraliser à cela, il y a grosso modo quelques postes importants en investissement. Donc, le premier gros poste, on va dire, en élevage, ça va être le foncier. Donc, les terres qu'il va falloir utiliser pour du pâturage, donc des prairies. Avec Isabelle, on a le but d'avoir une soixantaine de chèvres. Il va falloir au moins une douzaine à une quinzaine d'hectares de prairies pour être autonome en termes d'alimentation à l'extérieur, au moins, en herbe, pour que les chèvres en profitent au maximum et que la base de l'alimentation soit de l'herbe avant tout. Pour donner une idée, moi qui suis installé en Île-de-France, le prix à l'hectare des terres, la moyenne, c'est 10 000 euros l'hectare. Donc voilà, quand on a besoin d'une douzaine d'hectares, ça fait tout de suite 120 000 euros uniquement pour les terres, avant même d'avoir construit un bâtiment. Et puis, lorsqu'on veut être un petit peu autonome en alimentation, ben, il va falloir des terres supplémentaires pour cultiver un peu de foin et surtout des céréales. Et donc là, à cela s'ajoute encore quelques hectares de plus. Donc vraiment une moyenne à la louche, je dirais, si on veut être vraiment autonome en alimentation, il faut prévoir voilà, une vingtaine à 25 hectares pour être autonome pour un troupeau de 60 chèvres, tel que c'est le cas pour nous. Donc là, voilà, déjà, c'est le gros poste pour lequel il faut des financements quand on s'installe en élevage. Deuxième gros poste assez important aussi, ça va être les bâtiments. Selon l'installation qu'on fait, hein, soit on démarre de zéro, donc on s'installe sur des terres nues où il faut construire un bâtiment de zéro, ou on peut avoir la chance de reprendre une ferme existante, donc il y a un corps de ferme, des bâtiments, mais souvent ça va demander peut-être des rénovations, donc là l'achat va être important et les rénovations peuvent être aussi importantes financièrement. Sauf si on reprend un élevage de chèvres directement opérationnel, là il y a moins de travaux, moins d'investissements par la suite, mais le coût de l'achat bien sûr va être assez important vu que l'installation est opérationnelle. Et donc quand on prévoit des bâtiments, ben pour un chevrier qui veut s'installer ou une chevrière, il faut prévoir déjà le bâtiment en soi, que ce soit construit en dur ou en bois, une salle de traite, donc une machine à traire, souvent un aménagement pour l'espace traite. Il faut une fromagerie qui est assez coûteuse aussi parce que voilà, souvent une fromagerie c'est un gros frigo, donc des grosses chambres froides. Donc il faut prévoir pas mal d'électricité, de climatisation assez technique. Et puis quand on fait des bâtiments, souvent on est amené à ramener des réseaux. Les réseaux électriques, d'électricité, d'eau courante et de gestion des effluents, comme les effluents de la traite ou de la fromagerie qui sont assez importants. Donc ça, voilà, si on est en bord de route où il y a déjà tous ces réseaux-là, ça ne va pas être très compliqué de les brancher au nouveau bâtiment. Mais dès qu'on doit les acheminer de quelques mètres, voire quelques centaines de mètres, ça commence à chiffrer beaucoup. Et donc ça complique un peu la situation financière du projet. Surprise aussi que nous avons eue nous-mêmes, quand on n'est pas en ville ou en plein centre d'un village, on est obligé d'avoir une borne incendie, donc une réserve d'eau, si jamais il y a un incendie, pour lequel les pompiers peuvent avoir accès. Donc là, c'est tout de suite un chèque supplémentaire de 10 000, 12 000 euros pour installer une bâche incendie qui peut servir en cas de besoin. Et puis, au-delà des investissements, ben, il y a des charges qui peuvent être importantes, des charges courantes qui sont importantes et qu'il faut prévoir à l'avance, bien comme il faut. Les postes les plus importants en charge, justement, c'est l'alimentation hein, du troupeau. Ça représente un chiffre assez important. Donc, selon si on fait nous-mêmes l'alimentation ou on achète une partie ou on achète l'ensemble de l'alimentation, le prix va varier. Et donc, si on achète tout, ben, on dépend donc beaucoup des producteurs voisins ou d'ailleurs. Ou si on fait nous-mêmes, ben, ça va être l'investissement sur le matériel beaucoup plus. Donc, il faut avoir des tracteurs adaptés, il faut avoir des outils de fenaison, par exemple, qu'il faut entretenir. Et voilà, c'est beaucoup de travail en plus. Mais il faut quand même investir sur du matériel. Et puis, autre poste assez important, donc oui, matériel aussi, qui n'est pas du bâtiment, comme les tracteurs pour la manutention, au moins au quotidien à la ferme, pour faire bouger de la paille, bouger du foin au quotidien pour nourrir les animaux. Et puis un camion de livraison frigorifié très souvent qui va servir pour les livraisons vers les clients. Et puis dernier poste qui n'est pas le plus important, c'est une question qu'on nous pose beaucoup quand on vient visiter notre ferme, c'est le troupeau. Financièrement, c'est pas le plus important quand on achète un troupeau, mais c'est l'actif le plus important, bien sûr, d'avoir un troupeau en bonne santé et qu'on entretient très bien. Tous ces éléments-là que j'ai cités, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. C'est des choses qu'il faut adapter selon l'endroit où on s'installe, la ferme où on s'installe. Donc, chaque projet est différent, bien sûr. Et j'ai pensé à quelques organismes qui nous aident, qui nous accompagnent pour mieux prévoir tous ces investissements-là. Il existe l'AFOG, c'est un organisme national qui est organisé par département ou par région et qui accompagne aussi, qui est spécialisé en agriculture et qui accompagne les porteurs de projets ou même des gens déjà installés pour travailler sur leur prévisionnel économique, leur comptabilité. Et puis j'ai pensé aussi aux chambres d'agriculture qui sont assez spécialisées aussi dans ça. Donc souvent, il y a des centres de gestion dans les chambres d'agriculture qui accompagnent dans ce point-là de budgétisation et de prévoir correctement l'installation financière de son élevage ou de son exploitation agricole en général.
Conseil numéro 2, limiter ses investissements.
Il y a des solutions justement, voilà, si on ne veut pas s'endetter à vie, si on ne veut pas avoir des emprunts assez importants et sur du long terme, il existe des solutions pour limiter cela. Donc déjà, je parlais du poste le plus important en investissement qui est le foncier. Il existe une solution en s'installant avec Terre de Lien. Donc Terre de Lien est une coopérative nationale, une foncière, qui achète des terres agricoles grâce à de l'épargne citoyenne, dans le but d'installer des agriculteurs, que ce soit en élevage, en culture végétale, ainsi de suite, et surtout dans le but de garder ces terres-là agricoles pour la vie. Donc elles ne sont jamais revendues pour des projets non agricoles. Donc c'est un bon compromis entre porteurs de projets, épargne citoyenne et Terre de Lien qui accompagnent ces projets-là. Et puis souvent, bien sûr, on est obligé de travailler en agriculture biologique lorsqu'on s'installe avec Terre de Lien. Donc voilà, ça c'est une solution qui peut alléger fortement le point investissement en foncier dans son projet. Et puis souvent, pas très souvent justement, il y a des associations aussi dans certaines régions qui peuvent encore alléger beaucoup plus le projet d'investissement et le projet d'installation. C'est le cas pour Isabelle et moi. Nous avons décidé de nous installer dans la coopérative Les Champs des Possibles. Donc, c'est une coopérative qui existe en Île-de-France et qui s'est créée en 2009. Et le but de cette coopérative, c'est de mettre à disposition tout le matériel dont les porteurs de projets ont besoin pour se concentrer sur leur travail essentiel. Faire des fromages, élever son troupeau, gérer son projet correctement. Et surtout, c'est la coopérative des Champs des Possibles qui porte tous les investissements à son nom. Pour moi, c'est tout de suite un allègement sur nos épaules qu'on ressent lorsqu'on s'installe, lorsqu'on ne doit pas porter tous les emprunts qu'il faut, toutes les subventions qu'il faut demander. Donc, c'est une bonne solution. Bien sûr, quand on choisit de s'installer dans une coopérative comme les Champs des Possibles, on ne capitalise plus, tout est mis à disposition. Donc, à la fin de notre carrière, on ne capitalise pas tout ce qui nous a été mis à disposition. Et donc l'avantage derrière, c'est que c'est la coopérative qui héberge toutes nos activités. Donc on n'est pas des entrepreneurs individuels, on fait partie de la coopérative où nous hébergeons fiscalement, comptablement, juridiquement notre activité. Et là aussi, c'est un allègement assez important. Et puis donc dans notre cas, justement, donc c'est la coopérative qui investit sur les bâtiments, qui investit sur la fromagerie. La ferme dans laquelle nous sommes est aussi une ferme Terre de Lien, donc le foncier appartient à Terre de Lien et tout ce qui est bâtiment et matériel appartient à la coopérative, jusqu'au petit matériel, jusqu'au tracteur qu'on utilise. Bien sûr, ça nous coûte moins cher, on ne porte pas tous ces projets-là sur nos épaules à nous seuls. Ces solutions pour limiter les investissements à l'installation, le point commun de tout cela, c'est le collectif. Et donc, finalement, l'autre solution, et qui fait partie des deux premières solutions, c'est de s'installer en collectif, de partager un maximum de matériel, aller au-delà d'une CUMA qui existe aujourd'hui, qui est une sorte de société de partage de matériel, qui existe un peu partout en France, mais d'être en collectif complètement intégré, cela, bien sûr, a un effet bénéfique sur le fait de limiter les investissements, et de partager au maximum tout ce qui est autour de la ferme et dans la ferme.
Conseil numéro 3, solliciter les financeurs alternatifs.
Lorsqu'on s'installe donc, on a bien budgétisé son projet, on a déjà des pistes sur comment limiter ses investissements, il est temps de solliciter les financeurs pour son projet agricole et d'installation. Et donc, traditionnellement, beaucoup de porteurs de projets, tels que moi-même déjà, quand on s'est installé au Champ des Possibles, on a participé à cette partie-là, même si c'est les Champs des Possibles qui investissent. Traditionnellement, on va vers les banques classiques qui sont assez spécialisées en projets agricoles depuis des décennies, telles que le Crédit Agricole, qui ont des conseillers qui sont spécialisés en agriculture, donc connaissent assez bien le métier, accompagnent assez bien les porteurs de projets. Mais on ne se rend pas compte qu'il existe d'autres financeurs alternatifs qu'on peut aussi solliciter. Et pour moi, le plus important, c'est essayer de le faire tous travailler justement pour un même projet. Et donc, je vais citer quelques exemples en termes de banques déjà. Il y a une banque coopérative et éthique qui s'appelle l'ANEF, qui est une petite banque qui existe déjà depuis pas mal d'années, qui est spécialisée dans les financements de projets éthiques, bien sûr, commence à travailler sur des projets agricoles de plus en plus et se rapprocher justement des porteurs de projets pour les suivre de A à Z pour leur financement. Avec une banque telle que l'ANEF, on a la garantie que les financements sont éthiques. Il n'y a pas de spéculation derrière les fonds qu'ils récoltent et qu'ils empruntent. Bien sûr, les taux d'emprunt vont être un petit peu plus élevés que les taux des banques traditionnelles, du fait que voilà, c'est une banque qui ne fait pas du tout de spéculation. Donc voilà, c'est le prix juste pour moi. Hein, je préfère, c'est le taux juste, au lieu d'appeler ça un taux plus élevé. Autre structure qui existe un peu partout en France, on a France Initiative et France Active, qui sont des structures aussi un peu engagées par, on va dire, par l'État pour accompagner des entrepreneurs justement à la création, à la croissance. Jusque-là, ces structures-là ne s'approchaient pas beaucoup du monde agricole, du fait que c'était un peu complexe et que c'était un peu suivi par des chambres d'agriculture, des banques telles que le Crédit Agricole qui sont spécialisées dans ça. Mais depuis peu, elles s'investissent beaucoup plus dans les projets d'installation paysanne. Ce qui est très intéressant parce qu'ils apportent plusieurs outils de financement. Ils font des emprunts déjà classiques. Ils font aussi des garanties bancaires. Alors ça aussi, on découvre ça quand on veut s'installer et qu'on doit emprunter de l'argent pour son projet. Il ne suffit pas de trouver l'organisme emprunteur, mais il faut aussi trouver un autre organisme, très souvent différent de celui qui emprunte, qui va garantir ce projet-là. France Active et France Initiative font des garanties bancaires justement par rapport à un emprunt qui peut être fait à une autre banque. Ils font aussi des prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro très souvent qui sont garantis par l'État et qui permettent beaucoup plus, pas pour couvrir des investissements, mais beaucoup plus pour gérer un peu la trésorerie au départ. Surtout quand on a un projet qui va mettre du temps à démarrer, une phase de croissance qui est assez importante, ben le prêt d'honneur est là pour financer justement cette trésorerie-là dont on a besoin les premiers mois, les premières années. C'est des montants qui sont plus ou moins 20-25 000 euros sur présentation d'un projet, bien sûr, et ça peut beaucoup aider. Et puis, on a d'autres structures assez nombreuses aujourd'hui qui sont des structures de financement participatif aussi. Donc, finalement, c'est un peu de l'épargne citoyenne aussi, qui permettent de financer des projets plus ou moins importants, des projets qui ont du sens éthique et aussi agricole, donc les paysans. Et donc, je pense à Bluebees, par exemple, qui est l'une de ces structures-là qui finance et qui participent à des projets d'installation. Pour moi, le plus important, donc l'alternative, c'est de faire vraiment coopérer plusieurs structures pour un accompagnement d'un projet. Puis chacun va amener un peu son expérience dans l'accompagnement de notre projet. Il y en a qui vont être plus spécialisés en comptabilité pour nous accompagner, d'autres plus spécialisés en agricole, d'autres plutôt dans la finance. Et donc, pour moi, faire travailler plusieurs structures, il faut oser vraiment solliciter plusieurs de ces structures qui apportent chacune son expérience.
Conseil numéro 4, maîtriser ses marges.
Les pistes auxquelles je pense, en tout cas, et que je peux proposer pour mieux maîtriser ses marges dans un système d'élevage de chèvres avec transformation fromagère, ben, le but, je pense, le premier, c'est de la vente directe au maximum. Dès que nous vendons plus de production à des intermédiaires, ben c'est de la marge en moins pour nous. Donc bien sûr, pour maîtriser ses marges et garder la marge à son niveau, il faut essayer de vendre un maximum en vente directe. Et donc en vente directe, ben, tel que c'est le cas pour nous, on peut vendre en AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, directement aux consommateurs, donc via les associations. On peut vendre à la ferme si on a une boutique à la ferme ou qu'on met en place quelque chose. Et puis dans notre cas, on vend quand même à des intermédiaires. Alors beaucoup plus des commerces directement, tels qu'une Biocoop ou des commerces indépendants, c'est dans le but beaucoup plus de garder vraiment un lien, de construire un partenariat. Ce n'est pas uniquement dans le but de vendre et puis c'est tout. L'idée, c'est voilà, c'est de faire consommer nos produits le plus proche possible de la ferme et donc pourquoi pas faire participer ces commerces-là qui sont sensibles à notre façon de faire, au prix qu'on leur propose aussi, et de voilà, qui valorisent aussi derrière à leurs consommateurs et à leurs clients. Ce qu'on fait, et donc ils sont prêts à payer le prix juste aussi comme dans une AMAP. Ça peut être aussi des restaurants hein, qui vont aussi valoriser nos produits dans leur carte, dans leur menu, pour qu'il y ait le prix juste qui soit payé par le consommateur final. Deuxième point, c'est l'alimentation. Il est important de maîtriser l'alimentation du troupeau et donc le coût que ça va nous coûter. Quand on fait soi-même l'alimentation, ben, elle revient moins cher, mais c'est beaucoup de travail. Ça demande quand même des investissements. Donc en faisant soi-même une partie au moins, donc telle que les foins. On peut avoir un peu de matériel qui n'est pas très coûteux. On peut au moins maîtriser ses coûts en faisant son foin soi-même. Au-delà de ça, c'est les céréales qui sont assez coûteuses aussi quand on les achète directement d'une coopérative ou à l'extérieur. Si on peut les faire soi-même ou dans un collectif, bien sûr, s'il y a un paysan boulanger qui peut faire les céréales pour l'éleveur, c'est génial. Donc là aussi, c'est des économies qui vont se faire en transport. Voilà, tout reste sur place. Tout est collecté à la ferme et tout reste sur place pour les animaux. Et donc là, je parle de céréales brutes déjà, qui sont très bien pour couvrir les besoins des animaux. Mais il y a des éleveurs aussi qui décident d'acheter des bouchons qui sont des mélanges de céréales et de compléments alimentaires qui sont très coûteux du fait qu'ils sont transformés plusieurs fois. Donc là aussi, s'il y a des problèmes de marge, c'est un peu une partie sur laquelle on peut travailler. On peut passer de bouchons alimentaires qui sont usinés à des céréales brutes. Hein. Donc là, il y a des économies à faire pour maîtriser ces marges. Et puis enfin, l'autre solution pour maîtriser ces marges, c'est essayer de faire des ateliers ou des diversifications complémentaires qui ont du sens, bien sûr. Hein. Dans notre cas, au lieu de jeter le petit lait qu'on a en fromagerie, on a pris quelques cochons qu'on engraisse nous-mêmes. Ça fait zéro gâchis finalement par rapport au petit lait. Et puis l'engraissement des cochons, ben, ça fait un peu de viande en fin d'année qu'on vend à nos amapiens aussi, quelques caissettes. C'est parfait, justement. Ça permet de faire une petite activité supplémentaire qui ne demande pas tant de travail que ça et valoriser un peu plus un sous-produit qui est le petit lait et faire consommer une bonne viande à ses consommateurs. Ou encore, quand on est éleveur de chèvres, bien sûr, essayer de valoriser un peu la viande de chevreau. Beaucoup d'éleveurs décident pour gagner un peu de temps, et puis c'est un peu compliqué, de vendre leurs chevreaux à des engraisseurs qui s'en occupent après pour faire de la viande. Mais si on a un peu de place et un peu de temps à y consacrer, on peut engraisser nous-mêmes nos chevreaux et essayer de faire connaître cette viande-là à nos consommateurs et de leur vendre ça tous les ans.
Un dernier conseil pour les porteurs de projets de la part d'Abdenour Ahmad ?
Alors le conseil que je donnerais à des porteurs de projets qui veulent s'installer en élevage caprin et transformation fromagère, c'est vraiment de prendre et de prévoir le temps pour l'installation. Trouver la ferme qui est adaptée à notre élevage, à nous, à notre région, à ce qu'on recherche, ça prend du temps. Et donc, il faut utiliser vraiment ce temps-là pour justement se former, essayer de travailler à mi-temps dans différentes fermes pour apprendre son métier, de voir un maximum de différents systèmes aussi en allant d'une ferme à l'autre, et faire des formations aussi complémentaires. On peut avoir des formations d'une journée, deux, trois jours sur des thématiques assez spécifiques. C'est un temps qui est fait pour ça, justement. Et puis, trouver les bons partenaires de l'accompagnement à ce moment-là, tels que Abiosol dans notre région, en Ile-de-France, qui accompagne vraiment de A à Z pour le foncier, pour la commercialisation, pour l'installation technique. Vraiment utiliser ce temps-là qui est l'installation pour essayer de maximiser son expérience par différentes expériences de ce genre. Et donc, le prévoir aussi ce temps-là, parce que dès qu'on est formé, on a envie de s'installer tout de suite. Ça peut être possible, ça peut ne pas être possible. Donc, essayez vraiment de prévoir ce temps-là et donc financièrement aussi, comment s'en sortir pendant le temps de s'installer. Il est important, voilà, de le prévoir et de le prendre ce temps-là.
Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter et de vous abonner sur votre plateforme favorite. À très bientôt pour un nouvel épisode.